Voilà, et si j'arrive à parler pendant 4 secondes, voilà, top, c'est parfait. Il est 20h30 sur Transistor, pile à l'heure, on passe à la culture. Bonsoir Léa, bonsoir Sarah.
Bonsoir Rémi. Alors Rémi, on parle beaucoup de la SNCF ce soir. Eh ben, j'ai trouvé la coupable, c'est Sarah. Sarah, elle ruine la SNCF à coup de TGV Max, parce que là, elle va nous emmener à Bordeaux, à Paris et à Strasbourg. Et ensuite, on passera à ma chronique lyonnaise. Alors Sarah, on commence par l'Ouest. Une question me brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à avoir de l'orange à Bordeaux ?
Alors, l'orange, désessante le mariait au bleu. Un professeur de philo en avait ses chaussettes teintes. Mais qu'en est-il à Bordeaux ? Laissez-moi vous conter les déambulations de la jeune Sarah, qui, non, ne ruine pas la SNCF à coup de TGV Max, quand même. L'as du centre de la Terre, vous comprenez parce que vous êtes renseigné que c'est une référence au décor de Chut, qu'il faut absolument aller voir en Cantor très bientôt. Donc l'as du centre de la Terre.
Et dans laquelle tu ne joues pas du tout.
Non, je n'y joue pas du tout. Et hélas du centre de la Terre, je me mise à touiller mon café, l'œil égaré dans les méandres du passé. Les cuillères, les souvenirs, ça vous parle maintenant, puisque j'avais parlé la semaine dernière de petites cuillères volées. Et je me prie à regretter Bordeaux et mon ami Nounou, qui ne s'appelle pas Nounou, et qui, au lieu de m'écouter le jeudi soir, bûcheronne son droit. Je voulus parler du sud-ouest donc, parce qu'elle habite à Bordeaux. Je n'en parle jamais au JRA. Alors je me suis mise à chercher des expositions sympathiques dans le coin, au CAPC, le musée d'art contemporain, au Beaux-Arts. Qu'est-ce que j'allais choisir ? Les petites galeries souvent trop éphémères ? Mon œil désormais aux aguets repéra aussitôt l'exposition à voir, l'exposition divine, qui verra que certains ou certaines, il n'y a que des chibolettes dans mes propos, se déplaceront illico quasi presto à Bordeaux. Les Tchèques des années 20 et 30 se sont installés dans le MAD, musée d'art décoratif et du design, ce beau bâtiment situé en face d'un cabinet de curiosités dont je possède encore la carte tant il est curieux.
Vraiment. Et de digression en enthousiasme, tu as filé Sarah loin du orange. Tu nous expliques ton étrange association entre le MAD et le orange ?
Pardon, les digressions sans orange, c'est comme le film, c'est mécanique. J'y viens. Christophe Jacquet, en charge du graphisme du livret d'exposition, a voulu privilégier deux couleurs, dont l'une est taboue à Transistor. Je cite « La couleur orange de l'urgence et de la pensée et la couleur rose du plaisir ». Il avait en tête la phrase de Karel Tej, ou Teg, j'ai trop du mal avec la prononciation de ces noms tchèques, mais c'est le tempérament hilarant qui prime. Et je crois bien que dans cette expo nommée « L'image livre, éditeur et artiste de l'avant-garde tchèque 1920-1930, collection de l'historien du graphisme Pierre Ponan », vous allez en voir de toutes les couleurs.
Et c'est qui est exposé là-bas, Sarah ?
C'est Prague. Sans mauvais jeu de mots, vous entrez dans l'univers d'une Prague avant-garde où les surréalistes français inspirent les Tchèques et vice-versa probablement. Alors non, vous n'entendez pas réellement le bruit des ivrognes qui font le grand slalom, c'est-à-dire la tournée des bars de manière plus élégante. Vous ne voyez pas non plus le quartier des anciens alchimistes où a vécu un monsieur qui a rapiécé le lapin de ses enfants pour l'utiliser dans un film, bien sûr. Mais pour votre grand régal, Pierre Ponan a réuni sa collection de livres et de tableaux de l'époque. Parlons des livres. L'édition, le matériau, ne participe-t-elle pas de l'atmosphère du livre ? Le design, en gros, c'est aussi ce qui construit la diégèse. Enfin, quelque chose comme ça, quoi, j'espère. Promis, j'approfondis et je vous en dis plus forcément d'ici quelques temps, car l'expo se déroule jusqu'au 6 mai et que Bordeaux me manque. Nota bene, je tiens à préciser qu'il y a également des livres des frères Čapek, Joseph et Karel, les inventeurs du terme « robot », et d'autres artistes, y compris d'autres contrées géographiques.
Et on poursuit cet élan vers l'Est. Sarah, qu'est-ce qui se passe à Paris?
On dirait un sketch de cartoon à la Tom et Jerry. Bordeaux se tourne vers l'Est. En même temps, je comprends que l'orange tchèque soit moins agressif que l'orange présidentiel du Far West, tandis que Paris se tourne vers l'Est aussi. Sacré running gag. Du mardi 20 mars au dimanche 25 mars, une exposition sur les affiches des films de Tarkovski sera lancée à Paris. C'est grâce à Michael Lelouch et Potemkin Film que les grands fans de ce réalisateur russe pourront naviguer de pays en pays.
De pays en pays, mais Tarkovski, donc c'est du cinéma russe ?
Oui. Mais le principe, en fait, est de montrer des affiches internationales. Assez indicateur, je pense, sur la réception qu'on peut avoir des œuvres d'un artiste, ou bien sur les courants en vogue dans certaines contrées, à une époque donnée. Par exemple, ça n'a rien à voir avec Tarkovski, mais vous avez sans doute une représentation particulière de la couverture de Vertigo.
Oh oui.
Eh bien, sachez, oui, je sais que tu en as une, Eva, parce qu'elle est par terre, à côté de ta cheminée.
Et nous avons tous vu.
Eh bien, sachez qu'elle diffère complètement de la version polonaise de Jan Lenica, un talentueux surréaliste et affichiste. Et si vous voulez comparer, allez voir sur internet, parce que bah, là je peux pas vous montrer, et vous découvrirez les travaux de Lenica par la même occasion. Je vous assure, ça vaut le coup d'œil.
Oui, des affiches internationales, c'est pas bête, d'autant que Tarkovski a touché un public d'un peu tous les continents.
Oui, 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 exactement. Et pour en revenir à Tarkovski, il y a une rétrospective sur sa filmographie en début d'année scolaire, où il faisait encore bon de traîner la nuit du côté du premier film. C'est donc quelqu'un de plutôt important, et je ne doute pas qu'au studio l'on m'approuve là-dessus. D'un point de vue esthétique comme réflexif, je vous enjoins vivement à découvrir ou redécouvrir son art. Pour le coup, il a un regard particulier sur le monde, tout à fait unique et bouleversant. Scott McCloud définit l'artiste par ce genre de regard original, souvent marginal, et ce n'est pas le seul. Combien d'autres auteurs n'ont pas vu un visionnaire en chaque artiste ? Bon, je ne fais pas mon singe savant, McCloud c'était simplement un clin d'œil, histoire de réveiller les filles en BD, si toutefois elles écoutent notre merveilleux journal. En ce qui concerne Tarkovski, entre son goût pour l'eau, qui se traduit par des murs boursouflés par la moisissure et l'étrangeté de ses personnages, vous ne pourrez que percevoir le monde via une inhabituelle caméra. Et si vous connaissez déjà, bah, cette exposition à Paris serait l'occasion d'étudier les différents regards que l'on porte sur son œuvre, l'inspiration qu'il suscite chez certains.
Est-ce que tu aurais un petit exemple à nous livrer ?
Oui, la description qu'en fait Lelouch lui-même en guise de présentation de l'événement qui a lieu à l'espace Beau Repère, 28 rue Beau Repère. Donc là, je cite un enfant qui arrose un arbre, une femme assise sur une barrière, des dunes de sable, une maison qui brûle, un verre qui tombe, un chant qui ondule, une bougie qui ne doit pas s'éteindre. Autant de fragments d'un paysage mental et émotionnel qui nous accompagne longtemps après la fin des films d'Andrei Tarkovski. À l'instar de son stalker, le cinéaste est un passeur qui nous emmène loin, hors des sentiers battus du cinéma, vers une zone qui ne ressemble à rien de connu. Le temps semble s'y écouler différemment, s'étirer comme dans un rêve éveillé. À l'issue d'un périple exigeant mais envoûtant, comme le professeur et l'écrivain devant la chambre, il nous tend un miroir dans lequel nous contemplons nos failles, nos peurs, notre âme. L'affiche dans le miroir, qui porte bien son nom au vu des thématiques abordées par Tarkovski, c'est donc la semaine prochaine, quand certains seront encore sur leur mémoire.
Surtout que certains n'auront pas encore l'excuse
ou
des partiels.
Ou sur leur copie d'agrès.
Oui.
Allez savoir. Alors avant de quitter Beau Repère, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette exposition a lieu ?
Oui, notre Deus Ex Machina jaillit des tréfonds de Potemkin Films, qui profite de la sortie en coffret Blu-ray des versions restaurées de Tarkovski.
Wow.
Quel est ce cuirassé ? Un mot dessus quand même. C'est une société cinématographique qui gère aussi une boutique de DVD depuis 2006 et une édition de DVD ou de distribution de films depuis 2013. Et outre leurs références alléchantes, notons que Potemkin s'est associé en 2008 avec Agnès B. pour des éditions de DVD en commun. Agnès B. dont il y a eu une exposition cette année à Paris, 20 ans de mauvais genre avec Agnès B. près du canal Saint-Martin. J'en ai parlé et je ne sais même pas si quelqu'un s'en souvient. Enfin bon, si jamais cela vous intéresse, Potemkin a un site web plus facile à trouver que les liens de téléchargement illégal. Vous y verrez toute l'actualité d'un cinéma d'art et les offres de la boutique. Wouhou, joie.
Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous annoncer, Sarah ?
Oui, avant de nous quitter pour de nouvelles aventures, je vous rappelle qu'un festival international de théâtre s'inaugure demain, vendredi 16 mars, au TJP de Strasbourg. Vous savez, ce théâtre rue de l'Abreuvoir. Si vous n'avez pas en tête mes précédentes interloperies sur cet événement, j'ai 30 secondes pour vous raviver la mémoire. 14 pays, 27 compagnies, 73 représentations, ça ne vous dit rien ? Personne ne m'écoute. Résumé bref, questionner notre rapport au corps au moyen des marionnettes, explorer les impacts de notre société sur nos enveloppes de chair, de sang et de 70% de thé ou de café, interroger enfin la pensée humaine, le langage des mots, que l'on soit petit ou grand, le TJP nous offre tout ça en une semaine de festival théâtral. Nous restons à l'Est, mais de la France cette fois-ci, puisque nous serons à Strasbourg entre le 16 et le 24 mars. Enfin, si les cours ne nous retenaient pas ici, madame et moi. Et notre affection pour les mouflons de Zoé.
Oui, l'Est dont la marionnette fait partie d'un certain folklore d'ailleurs. Bah Sarah, il est bien vaste ton Est.
Eh bien écoute, je ne sais pas quoi répondre à cette pique écrite par moi-même sur ces doutes cartésiens. Bonne soirée chers auditeurs et à très vite. Enfin, du moins, moi je vais me taire et puis je vais laisser parler Léa quoi.
Oh.
Il serait temps.
On n'attendait plus que ça.
Je me sens bien prosaïque.
Non mais, tu disais la semaine dernière que tu attendais impatiemment la réouverture de deux musées à Lyon. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller ?
Oui, alors pas tout à fait à Lyon, mais juste à côté, à Villeurbanne, parce que je suis allée à l'IAC.
L'IAC, c'est l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. C'est quel type d'endroit ?
C'est un lieu qui me semble assez appréciable parce qu'on peut y fréquenter des œuvres dans une certaine proximité. On est assez loin d'une muséographie qui se voudrait didactique, qui installerait une forme de mise à distance par le parcours balisé, par les cartels. Non, là, on a en tout cas dans presque toutes les expositions que j'y ai vues plutôt la création d'environnements avec parfois un côté presque immersif pour le visiteur. La visite, c'est donc d'abord le moment d'une expérience, qui peut laisser une assez forte empreinte. C'est aussi un lieu qui propose de prendre le temps de la réflexion. On a un espace extérieur, un espace intérieur pour bouquiner, des livres.
Et qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition actuelle ?
Alors c'est Middle Earth et elle propose une réflexion poétique sur la Méditerranée, ou plutôt sur l'idée du midi, en mettant en exergue ce qu'il peut connoter pour nous. Maria Teresa Alves et Jimmy Durham, qui sont les artistes et commissaires pour cette exposition, mettent à distance l'idée des expositions ethnographiques en proposant des espaces qui baignent le visiteur, qui est invité à s'asseoir, à écouter, à goûter certains mets, pour l'accompagner dans un questionnement sur les territoires. Le visiteur est pris dans un réseau d'allusions qui peuvent se faire graves ou en tout cas grinçantes. Par exemple, une des salles est consacrée à la pourpre et au murex, donc l'animal dont elle est extraite. Et on a une inscription indiquant que plus la teinture de la pourpre vieillit, plus elle est éclatante. Et ça jouxte une photographie de la reine d'Angleterre. Alors, j'ai interrogé Charlotte Morel, chargée des publics à l'IAC, sur son sujet.
Il y a un côté effectivement critique, je pense, qui n'est pas forcément revendiqué, mais qui est plus ou moins assumé quand même par les artistes. D'avoir choisi cette photographie-là de presse, coupure de presse, c'était un peu piqué, un peu au vif la société contemporaine. Et de mettre aussi en rapport cette icône royale, qui n'a plus vraiment de rôle actif au sein d'un pays et d'un gouvernement. Et le mettre à côté du murex et de ces grandes teintures pourpres, justement, c'était un peu revenir sur l'empire colonial, sur la prédominance de grandes puissances. Et le murex est un symbole très fort pour Jimmy Durham et Maria-Thérèse Alves de l'ambiguïté, de l'ambivalence de la nature humaine, de pousser le raffinement jusqu'à la cruauté, en fait, d'obtenir une teinte absolument envers et contre tout, pouvoir teinter des vêtements royaux, rapprocher ces petits coquillages tout simples, tout vulnérables, en fait, de la figure de la reine. Je pense que c'est vraiment une manière de faire dire aux objets ce qu'eux ne disent pas textuellement.
Faire dire aux objets, donc, ce qu'ils ne disent pas textuellement. L'IAC, c'est à deux pas de la gare Pardieu et on peut voir Middle Earth jusqu'au 27 mai. On pourra également écouter un entretien plus complet avec Charlotte Morel dans le prochain Transversaire.
Et ensuite, Léa, tu nous proposes une sortie théâtre. On va où ?
On va au Théâtre des Célestins. Il y a une pièce qui, ces derniers temps, a pas mal attiré notre attention à Transistor. Elle s'appelle Tristesse. Alors, en lisant le pitch, on pourrait se dire que la pièce porte bien son nom. Une dirigeante d'extrême droite, de retour sur son île natale au Danemark, décide de monter un studio de cinéma de propagande dans ce village où il ne reste plus que 8 habitants. Chaque sujet est impliqué dans une affaire compromettante et se soumet à la volonté du parti. Et deux adolescentes tentent de résister.
Mais on est en plein polar nordique.
Exactement, et ça fait partie des codes qu'utilise l'auteur de cette pièce. Mais je crois que pour autant, ce n'est pas la tonalité générale, car on m'a aussi parlé de cette pièce qui a été un succès à Avignon, comme d'une pièce très drôle. Alors on écoute Sarah Seignobosque, assistante mise en scène.
L'autrice du spectacle qui écrit et met en scène et interprète aussi Martha Eger, la dirigeante politique, aborde toujours ses personnages avec beaucoup d'humour. Elle part toujours de personnages qui sont faibles en situation d'échec, mais c'est toujours des personnages très attachants parce que c'est des personnages qui sont en quête de reconnaissance ou d'amour. Elle va toujours utiliser des codes de jeu qui sont proches de ceux de la comédie, mais aussi dans la manière qu'elle a d'écrire l'histoire. Elle va nous présenter par exemple des situations qui sont en apparence banales, mais qui en fait sont poussées jusqu'à leur extrême. Et le fait que ces situations soient poussées jusqu'à leur extrême va provoquer le rire chez le spectateur, et ce rire va donc amener une forme de distance.
Donc tragique ou comique, on ne sait plus très bien à quoi s'attendre. En tout cas, c'est au Théâtre des Célestins, du 27 au 31 mai.
Bon, et la musique et le cinéma ?
Eh bah, bien, je vous propose un événement qui allie les deux et qui prend place juste à côté de nous, à l'amphithéâtre Mérieux. Vous connaissez sûrement le film d'Hitchcock, La Corde, célèbre pour ses plans-séquences, mais peut-être que vous n'avez pas remarqué qu'il n'y avait pas de bande originale dans ce film. Alors, deux étudiants du CNSMD qui se sont proposés de leur en donner une bande-son qui sera jouée par l'orchestre de l'ENS. J'ai demandé à Tom, qui en fait partie, de nous expliquer un peu quelle était l'attention des compositeurs.
Ils ont tenté de se distancer un petit peu du style hermanien habituel, puisqu'il y a pas de thème dans la musique, il n'y a pas de mélodie qui ressort. On est sur des choses assez dissonantes, ça frotte un peu, et c'est ça qui fait toutes les particularités, je pense, de cette composition. Et donc c'est une musique comme ça, assez lancinante, dissonante, qui appuie un peu la dimension de malaise qu'on pouvait ressentir dans le film, mais qui est maintenant plus forte quoi avec la musique, alors qu'à la base c'était peut-être une tonalité un petit peu plus comique.
Bon, alors j'ai voulu tenter la fonction enlever le bruit sur Audacity, ça fait une voix de robot, c'est intéressant. En tout cas, ce sera le 26 mars en Mérieux.
Et Léa, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un scoop, qu'est-ce que c'est?
Oui, on m'a dit quelque chose dans l'oreillette, et qu'est-ce qu'on entend? C'est Massive Attack. Alors je rajoute donc à notre journal ce petit scoop, le programme des Nuits de Fourvière vient de sortir et on pourra voir plein de gens géniaux. Alors comme on peut pas tous les citer, bah je cite ceux que je préfère, Massive Attack et MGMT. Et puis citons aussi Jack White, citons les Arctic Monkeys et puis Jane Birkin avec l'Orchestre de Lyon. Bon, en tout cas ça nous promet un joli mois de juillet, les réservations commencent demain à 14h en ligne.
Merci beaucoup Léa et Sarah pour votre journal de la culture. Et après un petit indicatif pour que François-René ait le temps de s'installer, on se retrouve pour le sport.
Jusqu'à 21h,
le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et rebonsoir François-René.
Et rebonsoir Rémi.
Alors, ton micro était...
Mon micro est...
Décidément aujourd'hui, la régie ne veut pas que tu parles François-René. Allez, c'est parti pour En sueur.